bienvenue dans cette exploration approfondie des concepts vraiment fondamentaux de la mesure. On s'appuie sur les sources qui nous ont été partagées. Notre mission aujourd'hui, voir un peu comment on arrive à quantifier le monde qui nous entoure et surtout, qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres? Allez, on décortique ça.
Oui, bonjour. Et c'est un sujet essentiel, vraiment. Savoir mesurer, c'est la clé pour juger de la fiabilité d'une info, et pas seulement dans un labo, hein. On va regarder ensemble les outils, bien sûr, l'inévitable, question de l'incertitude, et puis comment on interprète les résultats pour pas se tromper, quoi.
Parfait. Alors commençons par les outils. Les documents qu'on a, ils distinguent bien les instruments, disons, classiques, analogiques. Vous savez, avec une aiguille. Et les numériques, ceux avec un écran. Chaque type a ses caractéristiques, comme la portée. C'est quoi ça, la portée ?
L'étendue des valeurs qu'il peut mesurer, le min et le max.
Exactement. Et il y a aussi d'autres aspects cruciaux. La sensibilité, par exemple. C'est la plus petite variation que l'instrument arrive à détecter. C'est un peu sa finesse de perception, si vous voulez.
D'accord, la finesse.
Et puis, il y a aussi le temps de réponse. On dit parfois la rapidité. En gros, à quelle vitesse l'instrument réagit quand la grandeur change. Ce qui est fascinant, et que les sources soulignent bien, c'est que chaque outil, par sa nature même, il a ses limites. Aucun n'est parfait.
Ah, et ces limites, j'imagine, ça nous amène directement à l'incertitude. Si l'outil n'est pas parfait, la mesure non plus, forcément.
Tout à fait. Et les sources expliquent que, voilà, chaque mesure, qu'on la fasse une fois ou plusieurs fois, elle a une marge d'incertitude. Et c'est là que ça devient subtil. C'est pas forcément une faute qu'on aurait faite.
Non, non, pas du tout une faute au sens commun. L'incertitude, elle fait partie du jeu, elle est intégrée à la mesure. Les sources, elles distinguent bien deux grandes familles d'erreurs qui la causent. D'un côté, les erreurs systématiques. Celles-là, elles sont constantes, souvent liées à un défaut de l'instrument, un mauvais calibrage, par exemple. Elles sont un peu sournoises, car elles décalent tout dans le même sens.
Toujours pareil.
Et de l'autre côté, il y a les erreurs aléatoires. Celles-ci, elles varient d'une mesure à l'autre de façon imprévisible. Une petite erreur de lecture, une vibration.
Ok. Donc on ne peut pas l'éliminer complètement, cette incertitude. Mais on peut essayer de la cerner, de la quantifier. Surtout si on répète la mesure, peut-être.
Précisément. Pour les erreurs aléatoires, la répétition, c'est vraiment la clé. Les sources parlent de calculer la valeur moyenne de toutes les mesures qu'on a faites. Ça donne la meilleure estimation de la vraie valeur. Et pour quantifier la dispersion autour de cette moyenne, cette marge d'erreur dont on parlait, on utilise des outils statistiques. Le plus connu, c'est l'écart-type.
L'écart-type, oui.
Il donne une idée standard de comment les mesures s'étalent. Plus il est petit, plus les mesures sont proches les unes des autres, plus on est confiant. Pour peu de mesures, parfois on utilise une méthode plus simple, la demi-étendue maximale. On peut même voir ça visuellement, avec des histogrammes. Souvent, ça ressemble à la fameuse courbe en cloche, la distribution de Gauss.
D'accord, je vois. Et question pratique. Qu'est-ce qui se passe quand on doit combiner plusieurs mesures pour avoir un résultat? Par exemple, je mesure une longueur, une largeur, chacune a son incertitude, et je veux calculer la surface. Comment ça marche, l'incertitude du résultat final?
Ah, très bonne question. C'est ce qu'on appelle la propagation de l'incertitude. Les sources expliquent qu'il y a des règles spécifiques pour calculer l'incertitude finale. Ça dépend si on additionne, si on soustrait, si on multiplie ou divise les grandeurs mesurées. C'est là que l'incertitude relative, souvent donnée en pourcentage, devient très utile. Elle montre l'importance de l'erreur par rapport à la valeur elle-même. Et tout ça, ça nous amène à un point, mais alors crucial, les chiffres significatifs.
Ah oui, les chiffres significatifs, pour pas écrire des résultats avec 15 chiffres après la virgule qui ne veulent rien dire.
Exactement. C'est une question d'honnêteté, en fait, d'honnêteté scientifique et de clarté. Afficher trop de décimales, ça donne une fausse impression de précision qui n'existe pas. Donc, les règles d'arrondissement et l'utilisation correcte des chiffres significatifs, c'est fondamental pour communiquer un résultat qui soit fiable, qui reflète vraiment le degré de confiance qu'on peut lui accorder.
Et pour visualiser ça, il y a les barres d'erreur sur les graphiques, c'est ça?
Oui, voilà. Les sources les mentionnent aussi. Les graphiques avec des barres d'erreur, c'est un super moyen de montrer visuellement cette incertitude pour chaque point de données. C'est très parlant.
Ok. Donc si on essaie de résumer tout ça, mesurer, c'est pas juste lire un chiffre. C'est tout un processus pour avoir la meilleure estimation possible d'une quantité, tout en étant hyper conscient et transparent sur les limites, sur l'incertitude de cette estimation.
C'est exactement ça. Il faut comprendre son outil, sa portée, sa sensibilité, son temps de réponse, identifier les sources d'erreurs possibles, systématiques, aléatoires, traiter les données rigoureusement, moyenne, écart type, et surtout, présenter le résultat final avec son incertitude, qu'elle soit absolue ou relative, en respectant bien les chiffres significatifs. Ça, c'est une mesure complète et honnête.
Parfait. Et pour conclure, une petite réflexion que m'inspire tout ça. Avec tous ces appareils numériques qui nous bombardent de chiffres, avec plein de décimales, qui ont l'air hyper précis, est-ce qu'on ne risque pas un peu d'oublier cette incertitude fondamentale, cette marge d'erreur qui existe toujours ? Juste parce que l'écran, lui, il affiche un truc qui a l'air si définitif. C'est une question à garder en tête, je pense.